Ce soir, on continue notre étude dans Éphésiens. On avait terminé le chapitre 1 avec, au début, on a vu la position du croyant comme les espions qui avaient été dans le pays de Canaan pour voir les bénédictions terrestres dans le pays qui était là pour Israël. Puis Israël, avec ces bénédictions-là, devait marcher pour aller posséder le pays. Puis on a vu que, ouais, il arrive. C'est que après ça, on avait vu comment le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont exécuté le plan de rédemption. Le Père l'a planifié avant les temps éternels et le Fils est venu l'exécuter. Le Saint-Esprit nous l'a appliqué. Puis pour ceux qui sont sauvés, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, c'est une chose qu'on possède maintenant. Puis la façon qu'on va voir dans le chapitre 4, chapitre 4 et 5, il faut marcher dans ces bénédictions-là, les posséder. On les a déjà, mais d'en prendre possession. On avait vu ensuite, à partir du verset 15, c'est la prière de Paul qui priait pour ces Éphésiens-là, ou pour les croyants, afin qu'ils puissent avoir un esprit d'illumination, pour qu'ils donnent un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Seigneur Jésus. Puis au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ensuite de ça, au verset 19, on a vu l'infinie grandeur de sa puissance qui nous est donnée pour pouvoir marcher dans ces bénédictions-là, pouvoir avoir la victoire. On avait dit que la vie chrétienne, c'était impossible à moins d'être sauvé, puis à moins d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité dans cette grande puissance-là, de marcher d'une façon digne du Seigneur. On va voir ça quand on va arriver dans les chapitres 4, 5 et 6. Mais aujourd'hui, on arrive au chapitre 2. Puis au chapitre 2, maintenant, ben, on voit qu'est-ce qu'on a en Christ. Mais dans le chapitre 2, on voit d'où on vient. Puis comment on a pu entrer dans ces bénédictions-là. C'est que là, maintenant, ça s'adresse à nous. On va lire à partir du verset 1 du chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc ici, on a deux groupes de personnes, deux groupes, puis c'est le premier groupe, on faisait partie de ce groupe-là avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et le deuxième groupe, ben, c'est ceux qui sont devenus maintenant, on va voir qu'ils deviennent l'habitation de Dieu en esprit. Pour ça, c'est tout un mystère qu'on va voir en avançant. Puis la différence entre les deux groupes, ben, c'est le salut de Dieu. C'est ce qui fait toute la différence entre ces deux groupes de personnes-là. Le premier groupe, ici, on voit qu'il est destiné à la colère. Ça, c'est le jugement de Dieu pour l'éternité. Puis il dit, vous étiez morts. Donc, il s'adresse aux Éphésiens, mais il s'adresse à nous aussi, auparavant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'était la condition dans laquelle on était. On va peut-être aller dans 2 Corinthiens 4, 4 pour regarder qui dit ici, 2 Corinthiens 4, verset 4. Il dit, mais peut-être on va regarder au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, ça, c'est le premier groupe qu'on voit ici, là, dans Éphésiens. Pour les incrédules, ceux qui n'ont pas la foi, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc c'était, quand on n'est pas sauvé, avant d'être sauvé, on est des incrédules. On ne croit pas au moyen de rédemption que Dieu a pourvu pour tout homme, toute femme, aussi tout enfant qui va se tourner vers lui pour le salut. Le Seigneur va les sauver parce qu'il a dit qu'il ne mettrait pas dehors ceux qui viennent à lui. Puis c'est son moyen, mais c'est son moyen. Il faut absolument arriver à lui par le moyen de l'évangile que lui a pourvu. Donc on voit que c'est le premier groupe. On va aller dans 2 Thessaloniciens aussi. 2 Thessaloniciens 2. Comme il nous dit, c'est le Dieu de ce siècle, c'est vraiment Satan, qui a aveuglé l'intelligence de ceux qui périssent pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu. C'est vraiment grand. Quand on le découvre, cet évangile-là, on est ébloui. On trouve ça tellement merveilleux parce que ça nous rejoint. On peut, moi, je me souviens quand j'étais dans la religion auparavant, ben, je voulais aller au ciel, mais comment? Puis je n'étais jamais capable de le faire. Mais tout d'un coup, quand j'ai réalisé, c'était pas dans ce que moi je faisais, mais c'était dans ce que Dieu a fait pour moi. Ça, c'était toute une révélation merveilleuse. Puis je l'ai reçu. Avant ça, j'étais aveuglé. Maintenant, il y a une expression des fois, quand les gens sont sauvés, ils disent, j'ai vu la lumière. C'est ça qui nous arrive quand on est sauvé. Donc, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 10, il dit ici, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ça, cette première compagnie-là, c'est des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour les sauver de leurs péchés. Ils sont encore dans leurs péchés, comme Paul est dit, quand il leur dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ben ça, il parle à des chrétiens ici. Donc, pour eux, c'est au passé. C'est merveilleux que ce soit au passé. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, c'est encore au présent. Parce qu'ils sont morts par leurs offenses et par leurs péchés. Quand on pense au mot offense ici, là, le mot veut dire c'est une déviation. Une déviation peut-être pas nécessairement intentionnelle, mais c'est parce qu'on est né dans le péché. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de salut, parce qu'on est né dans le péché. C'est une déviation non intentionnelle, ou c'est peut-être aussi une transgression volontaire. Le mot veut dire une déviation. C'est qu'on n'est pas dans le chemin qu'on devrait être. On est dans un mauvais chemin. C'est pour ça qu'il dit, vous étiez morts par vos offenses, mais aussi par vos péchés. Le mot péché ici, ça veut dire, c'est qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque la sainteté. Il nous manque, avant d'être sauvé, c'est comme, c'est de manquer le but. Ce qui veut dire aussi dans vos péchés, c'est de manquer le but, ou c'est une violation de la loi divine en pensée ou en action. Puis avant d'être sauvé, il nous manquait, on manquait le but. On n'était pas à la hauteur de pouvoir être dans la présence de Dieu, parce que Dieu est trois fois saint, puis nous, on était des pécheurs. C'est ça qui est important de comprendre. Puis c'est la première chose qu'on doit comprendre avant d'être sauvé. C'est notre besoin d'être sauvé, du fait qu'on est des pécheurs perdus devant Dieu. On est aveuglé par le Dieu de ce siècle. Puis on marche dans nos. Vous étiez morts. On est dans la mort spirituelle. On est coupé d'avec Dieu. C'est important. Sans reconnaître ça, on ne peut pas être sauvé. C'est important qu'on reconnaisse ça ici. Mais dans un sens, ces gens-là, des fois, se sentent en sécurité à cause de tous ceux qui les entourent. On dit, ah ben, je ne suis pas pire qu'un autre, puis on peut se comparer. Il y a des gens qui se comparent. C'est sûr qu'on va probablement quasiment toujours trouver quelqu'un de pire que nous autres. Hein? Je n'ai pas tué personne. Mais devant Dieu, le péché, c'est le péché. De manquer le but, c'est comme si on tire une flèche, puis qu'on manque la cible. C'est pas bon. Si on manque la cible, ça ne vaut rien. On n'est pas à la place qu'on devrait être pour être avec Dieu. C'est l'éternité. On va passer l'éternité sans Dieu parce qu'on n'atteint pas le but. On n'atteint pas la sainteté. Puis n'importe qui dans sa religion qui est honnête va reconnaître qu'il manque le but. Même dans une religion qu'on se fait nous autres mêmes, on la brise. À cause de notre péché, on brise notre religion. Puis les religions d'hommes, bien, on réussit pas à les accomplir. C'est pour ça que dans les religions d'hommes, il y a toujours un échappatoire. Soit qu'on donne de l'argent, on paye pour nos péchés, ou qu'on fait des sacrifices, ou qu'on... Il faut toujours faire quelque chose parce qu'on manque le but. Puis, mais avec le Seigneur, on ne manque pas le but, parce que c'est lui qui a accompli parfaitement le salut pour nous. Mais quand on s'arrête à penser, comme il dit ici, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels, dans ces péchés-là, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Puis selon le train de ce monde, c'est vraiment, c'est genre la façon du monde. Mais j'aime faire un jeu de mots ici avec ce mot-là, train. Ben, vous savez, un train, il y a plusieurs wagons. Puis les wagons suivent toute la locomotive. Puis c'est un peu comme ça, c'est une belle illustration de ce qu'on est dans le monde. C'est qu'on est dans comme si on est un wagon. Des fois, on ne voit pas la locomotive en avant, mais on suit la locomotive, comme tous les autres wagons, parce qu'ils sont attachés à la locomotive. Et c'est pour ça qu'il dit selon le train de ce monde. On est entouré de gens comme nous, qui sont morts dans leurs offenses, dans leurs péchés. On marche là-dedans, mais on s'aperçoit, parce qu'on suit les autres, on fait comme les autres. Mais regardez un petit peu plus loin, il dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Fait que si on remonte le train, on va arriver en avant, puis qui est la locomotive? Ben, c'est Satan. Satan qui est en rébellion contre Dieu. Puis le fait qu'il est en rébellion contre Dieu, on le suit. On le suit parce qu'on est attaché à lui à cause de nos offenses et de nos péchés. Puis étant attaché à lui, ben, on s'en va dans la direction que lui s'en va. Puis la direction que lui s'en va, c'est dans l'étang de feu pour l'éternité. C'est là qui est sa destination finale. On voit que dans l'Apocalypse, qu'il va être jeté dans l'étang de feu après les 1000 ans, après le royaume de 1000 ans, il va être jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Et tous ceux qui sont dans la même rébellion que lui, c'est Satan qui a entraîné l'homme dans la rébellion. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont obéi à Satan, donc ils se sont livrés à Satan, puis ils sont entrés dans une rébellion. Comme il le dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est ça qu'on se retrouve dans cette situation-là, ici, là. On voit même, des fois, il faut faire attention parce qu'on ne veut plus marcher selon le prince de la puissance de l'air. On ne veut plus marcher selon le train de ce monde. Mais il faut se garder du monde après qu'on est sauvé. C'est sûr qu'on est en sécurité avec le Seigneur Jésus, mais on ne veut plus marcher dans cette façon-là. Il y en a qui étaient avec nous, qui marchaient avec nous dans la lumière avec le Seigneur Jésus, puis qui se sont détournés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. S'ils étaient vraiment sauvés, ils sont sauvés pour l'éternité, mais on ne voit plus leur salut à cause du fait qu'ils marchent dans ces choses-là on a abandonné, des choses auxquelles on a été arrachés. On va le voir par le Seigneur aussi. Mais l'influence, c'est quoi? L'influence de la puissance de l'air. Vous savez, on parle de l'air, les ondes, mais l'influence, on la retrouve dans la musique du monde, la pensée du monde. La rébellion, on la voit dans la musique. Puis surtout, aujourd'hui, la musique, il y a beaucoup de musique qui est provocatrice. On se commençait par la musique rock, puis après ça, le heavy metal, puis toutes ces musiques-là, puis le rap aujourd'hui, c'est vraiment on voit la rébellion contre ce qui est bien, contre Dieu, vraiment. Puis dans les films aussi, on voit cette influence-là. Dans le divertissement, les choses dans lesquelles les gens se divertissent, eh bien, sont influencés par ces choses-là. Puis c'est pour ça que mais en avant, tout ça, c'est le prince de la puissance de l'air. Puis il y a les médias, il y a les penseurs du siècle aussi. Souvent, des gens vont citer des penseurs, mais c'est pas la Bible, c'est des idées d'hommes. Mais ici, au verset 3, il dit, nous tous aussi, là maintenant, il met le nous, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Maintenant, il dit, c'est le nous aussi, là, ici. Mais ce qui arrive, c'est que dans le monde, on est centré sur nous-mêmes. Mais pour ça que pour connaître la vie, là, il faut vraiment se séparer du monde. Le Seigneur dit dans Matthieu 10, 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais il y en a plusieurs qui perdent leur vie maintenant. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils vivent pour le moi. Ils vivent constamment pour que ce qui est bénéficiaire à moi. Mais en vivant pour le moi, c'est de vivre aussi pour le siècle présent. On veut profiter du siècle présent. Mais la fin de ça, c'est la colère. C'est que si on veut profiter du moment présent, ben, on va faire. Ben, pour ceux qui sont sauvés, on sait qu'ils vont être épargnés de la colère, mais on s'en va dans le sens des gens qui vont vers la colère. Mais si ceux qui ne sont pas sauvés, ils s'en vont vers la colère. La colère, c'est exprimée dans le jugement, donc dans la punition elle-même. Parce qu'il y a une punition à vivre comme ça. Puis la colère est la juste punition de Dieu. Des gens qui se font et s'offusquent maintenant à penser que Dieu va juger le monde. Puis ça, il parle de la colère de Dieu, puis il voit ça comme quelque chose de mauvais. Mais la colère est la juste punition de Dieu. Puis même on réclame la colère. Quand quelqu'un fait quelque chose de terrible envers nous, bien, on espère qu'il va avoir un jugement. On espère qu'il va avoir une rétribution. Bien, ça veut dire que quand moi je fais le mal, il va avoir une rétribution aussi. Mais donc la colère, elle est méritée. Puis elle est nécessaire aussi pour établir la justice. Parce que le Seigneur Jésus va établir un règne de justice, puis il nous fait rentrer dans cette justice-là. Mais pour faire un règne de justice sur la terre, le Seigneur va devoir enlever le péché, puis il va devoir juger. Puis la colère, c'est l'étang de feu pour l'éternité. On va aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens au chapitre 1, et on va lire le verset 7 à 9. Il dit, il parle ici de ceux qui se sauvent. Ben, peut-être on va recommencer au verset 5. Il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Fait que ceux qui marchent pour le royaume de Dieu, ils souffrent dans cette rébellion-là parce qu'ils ne veulent pas se joindre à cette rébellion-là. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc voyez-vous, il y a un jour où le Seigneur va venir avec les siens pour juger ceux qui n'ont pas reçu l'évangile de Dieu qui est accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un jugement qui vient sur eux. Mais maintenant, on arrive au deuxième groupe. Ça, c'est le premier groupe dans lequel on faisait partie auparavant. On faisait partie de ce groupe-là. Mais quand on était sauvés, maintenant, il y a un mais au verset 4. Vous savez, quand il y a un mais, ça change toute la situation. Puis c'est vraiment un beau mot, le mot mais. Quand on lit ça, c'est décourageant, là. Mais quand on arrive à mai, c'est qu'il y a une transition qui se passe. On appelle ça un mot charnière qui fait toute la différence. Mais regardez au verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Donc, vous n'êtes plus. Ceux qui sont sauvés font plus partie du premier groupe. Ils sont changés maintenant. On n'était pas étrangers dans le monde auparavant, mais on était étrangers de la maisonnée de Dieu. Puis il y a maintenant une appartenance. Comment le savons-nous? À cause de la fondation. Puis la fondation, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voyez-vous l'importance du Seigneur Jésus pour transférer. Dans la religion, on ne peut pas transférer, mais dans le Seigneur Jésus, on peut transférer. Au verset 19, il avait dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, c'est vraiment merveilleux ici. Dieu lui-même est manifesté au milieu de nous. Puis, on va comparer avec Galates 5. Galates 5, juste avant Éphésiens. Galates 5, et versets 22 et 23. Il dit ici, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc maintenant, c'est la nouvelle atmosphère. Avant ça, on vivait on marchait selon les convoitises de notre chair, on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées, puis on était par nature des enfants de colère comme les autres. Mais maintenant, on est transporté dans un nouvel environnement. C'est la présence de Dieu qui fait la différence dans cet nouvel environnement-là ici. Donc maintenant, quand on arrive au verset 4, les versets 4 à 18, on voit la différence entre les deux groupes. Comme on a dit, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le salut de Dieu. Sans le salut de Dieu, on serait encore dans ce groupe-là. Mais avec le salut de Dieu qui est introduit ici, mais Dieu. Donc on voit dans le verset 4 à 10, c'est son œuvre qu'il a accomplie en nous pour nous sauver. Dans les versets 11 à 13, c'est la condition des païens qui étaient sans Christ. Et dans les versets 14 à 18, c'est le rapprochement des Juifs et païens pour former un seul corps. Fait qu'on avait les païens qui étaient éloignés de Dieu, puis après ça, et qui étaient sans Christ, mais même les Juifs aussi étaient sans Christ. Donc, quand on pense ils avaient besoin eux aussi d'être sauvés, on va le voir en avançant. Mais maintenant, ils vont être rapprochés ensemble, mais d'une façon différente. Ils vont être rapprochés ensemble, mais pas du fait que les païens vont aller judaïser, comme dans l'Ancien Testament. Les païens pouvaient devenir des prosélytes. Ça veut dire qu'ils se convertissaient à la religion juive. Mais ici, le rapprochement n'est pas en rapport avec la nation juive ou la loi ou la religion juive, mais en rapport avec Christ, qui est nouveau parce que même eux aussi ont besoin d'être rapprochés de la même façon que nous. Donc, dans les versets 4 à 10, on a son œuvre en nous. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Des fois, les gens se demandent pourquoi que le Seigneur pourquoi il nous a sauvés. Mais il dit ici, c'est à cause du fait qu'il est riche en miséricorde, puis qu'il y a un grand amour. Puis cet amour-là, il l'a dirigé vers nous des pécheurs. C'est pour ça qu'on a le salut. L'origine, c'est du salut, ça vient de Dieu. Quand il dit mais, là, il parle pas de nous. Il parle mais Dieu. Puis il nous ramène à l'origine du salut, qui fait toute la différence. Ça n'a pas commencé avec nous autres. Le salut trouve son origine en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est riche en miséricorde. Puis à cause du grand amour dont il nous a aimés. Quand on lit Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, c'est Dieu qui nous a tellement aimés. Puis parce qu'il nous a aimés, il a donné son Fils unique. Pour que nous, la réponse qu'on a à faire, c'est de croire en lui. Afin que quiconque croit en lui, puis quand le fait de croire dans le Seigneur Jésus, on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle présentement. C'est vraiment merveilleux. L'homme n'aurait jamais pu initier cette réconciliation-là, parce qu'elle doit être initiée par Dieu lui-même. Puis le salut a été initié par Dieu envers nous. C'est ça qui est merveilleux. Quand on est sauvé, on se rend compte de ça, puis on se dit, si le Seigneur Jésus n'était pas venu mourir sur la croix pour nos péchés, jamais, jamais on n'aurait pu être sauvé. La preuve, c'est que toutes les religions en dehors de Christ ne peuvent jamais trouver le salut. C'est seulement en Christ. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis toutes les religions dans le monde, toutes les religions dans le monde en sont la preuve, qu'il y a seulement le Seigneur Jésus qui peut nous sauver. Excusez-moi. Donc, les ressources ici pour notre salut, c'est quoi? Ben, c'est sa miséricorde, qui est riche en miséricorde. Donc, la miséricorde, qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est de retenir ce que nous méritions. de ne pas nous donner ce que nous méritions. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Parce qu'on dit, nous tous ici, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Donc, on méritait le même sort que ces gens-là parce qu'on était pareil, on était avec eux. Mais Dieu est riche en miséricorde. Donc, il retient ce que nous méritons. Et il ne nous donne pas ce que nous méritons. Après ça, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Puis tout ça, c'est parce que Dieu est amour. Vous savez, des fois, on se demande pourquoi qu'il m'aime moi, ben, c'est parce qu'il est amour. Puis l'amour cherche un objet à aimer. Puis Dieu, ben, on est sa création. Même si on est en rébellion contre lui avant d'être sauvé, même si on marche selon le prince de la puissance de l'air, il nous aime tellement qu'il veut nous ramener à lui. Puis il y a un moyen sûr et sécure de nous ramener à lui à cause de son grand amour. Puis il dit après ça, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. Paul va prier pour ça dans sa deuxième prière, pour qu'on puisse connaître cet amour-là. C'est important pour un chrétien de connaître l'amour de Dieu, parce que c'est tout à cause de son amour. Puis à cause de son grand amour, ça, c'est la source inépuisable. L'amour de Dieu, si grand, si fort, c'est un amour qui va au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Vous savez, on a connu l'amour parce qu'on a connu l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu pour nous. Comme Paul pouvait dire, si je vis dans la foi, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul pouvait dire aussi, nous nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Vous savez, l'amour initie. Puis on doit répondre à cet amour-là. Comme un jeune homme qui propose à une jeune fille, et quand il propose son amour, bien, elle doit répondre à son amour. Puis Dieu, il a proposé son amour envers nous, en envoyant son Fils unique dans le monde. Puis on pense à toute la souffrance du Seigneur Jésus, que ça nous démontre. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça, c'est son amour, c'est une source inépuisable. Puis c'est ça qui nous donne l'assurance, parce qu'on ne peut jamais épuiser l'amour de Dieu. Paul qui peut dire qu'il était un blasphémateur, puis il était un meurtrier, puis il avait essayé d'éradiquer le nom du Seigneur Jésus, mais il a été vraiment brisé par l'amour du Seigneur envers lui. Hein, parce qu'il dit, c'est à cause de sa grâce qu'il m'a donné d'être dans le ministère. Mais après ça, c'est sa grâce, comme il dit ici. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a rendus vivants de mort qu'on était. On l'a vu dans la prière de Paul, hein, qui a montré l'infinie grandeur de sa puissance envers nous. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, puis en le faisant asseoir à sa droite. Mais il l'a démontré aussi en nous. Parce qu'on était mort, comme il dit, vous étiez mort par vos offenses. Mais maintenant, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants. Il a communiqué la vie. Il nous a régénérés. Ça, c'est sa grâce. La grâce, si la miséricorde, c'est de retenir, de ne pas nous donner le jugement qu'on méritait. Sa grâce, c'est de nous donner ce que nous ne méritions pas. Alors, il y a des gens qui disent, ah, ben moi, je ne mérite pas d'être sauvé. Personne ne mérite d'être sauvé. Parce qu'on était des rebelles. On faisait partie de la rébellion contre Dieu. Mais c'est sa grâce qui nous donne un salut merveilleux, tout accompli dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement merveilleux. Donc, c'est sa grâce. Il nous donne ce que nous ne méritions point. Le vous du verset 1 et le nous du verset 3. Le vous du verset 1, c'était les païens. C'est ce que nous autres, on était. On était des païens, on n'était pas d'Israël. Mais Paul, il dit au verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, si c'est les juifs. Mais les juifs, les païens, le vous du verset 1 et le nous du verset 3 sont devenus le nous du verset 5. Le verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses. Là, maintenant, Paul inclut les juifs et les païens. Ouais, les païens, ils étaient dans le monde, mais les juifs aussi. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, les Juifs se pensaient corrects parce qu'ils étaient dans la religion juive, la religion qui était venue de Dieu, mais ils étaient dans la désobéissance aussi, ils étaient dans la rébellion aussi. On le voit clairement quand ils ont crié, on ne veut pas de cet homme pour régner sur nous. Crucifie-le, c'était, ils rejetaient leur Messie, ils rejetaient leur Dieu, celui qui voulait, qui allait mourir sur la croix pour leur péché. Le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Autant les Romains, autant les Juifs, ils étaient impliqués dans la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Au niveau de l'esprit, on était mort spirituellement. On était vivant physiquement, mais mort spirituellement. Mais la transaction a été de la mort à la vie. C'est pour ça que dans Jean 5, 24, le Seigneur Jésus disait, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Voyez-vous, c'est la même transaction que le Seigneur Jésus décrit ici, là. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, on a été régénéré par la vie. Il nous a transmis la vie dans une sorte de résurrection spirituelle. On va faire partie de la résurrection physique. Notre corps va passer par la résurrection ou peut-être par une transformation si on n'est pas mort quand le Seigneur Jésus va venir nous prendre. Mais on va tout être changé en un instant, d'un clin d'œil. Mais maintenant, spirituellement, déjà, quand on est sauvé, on est passé de la mort à la vie. Puis comment ça se fait? Seigneur Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a présentement la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et vous, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc c'était au passé pour les croyants. C'était au passé spirituellement. On est ressuscité maintenant. On vit d'une vie nouvelle. On a cette vie de Dieu en nous qui nous transforme. Quand quelqu'un est sauvé, on voit une transformation. C'est pour ça que Paul il pouvait dire, j'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis il y a déjà une transformation qui commence spirituellement en nous, qui se manifeste dans nos corps. Avant ça, on reflétait la mort dans nos membres, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Mais maintenant, par l'Esprit de Dieu, on peut refléter maintenant la vie éternelle dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. C'est que ça, c'est vraiment, on est passé de la mort à la vie. Paul dit ici, il nous a ressuscités ensemble. Donc, ensemble ici, c'est les Juifs et les païens. Ils vont venir à parler de ce mystère-là, les Juifs et païens. Ça, c'était deux entités tellement opposées, là. Dans l'Ancien Testament, on va le voir, c'était tellement opposé, mais maintenant, on est ensemble. Puis on voit comment est-ce qu'on est devenu ensemble dans cette union-là, ici, là. Ressuscité ensemble. La différence entre les Juifs et les païens était une question de l'heure. À ce moment-là, parce que l'Église commençait, c'était le début de l'Église. Puis l'Église, c'était un mystère, Paul en parlait. Mais à ce moment-là, il y avait les Juifs, puis il y avait les païens. On voit que c'était vraiment une question épineuse à ce moment-là. Puis n'importe qui essayait de rassembler juifs et païens ensemble, là, il était mal vu des juifs. Parce que les juifs, les autres, ils se disaient saints. Puis les autres, c'était des chiens, des gens du dehors. Donc, ils ne voulaient pas être associés aux païens. Même quand ils passaient par la Samarie, les juifs, quand ils venaient du nord, ils ne voulaient pas passer par la Samarie, ils traversaient le Jourdain. Ils descendaient plus bas, puis ils traversaient le Jourdain pour aller à Jérusalem, parce qu'ils ne voulaient pas passer par la Samarie, parce qu'ils ne voulaient pas se souiller. C'était des impurs, parce que la Samarie était mêlée au monde. Mais il y avait une différence marquée dans ce temps-là. Il y avait une grande démarcation. Puis on le voit, si on va dans Actes au chapitre 11, on va le voir, ça, cette pensée-là, surtout des Juifs. Puis même la Samaritaine, quand le Seigneur s'est adressé à elle dans Jean 4, elle a dit, comment toi qui es un juif, t'adresses-tu à moi qui suis une Samaritaine? C'était pas quelque chose de vu, ça. Puis, mais le Seigneur, il s'est adressé à elle, même si c'était une Samaritaine, parce qu'il voulait la sauver. Puis, mais c'était pas bien vu. Regardez dans chapitre 11 des Actes, après que Pierre était allé vers Corneille, parce que Corneille était un païen. Puis il dit ici, puis c'était par une révélation que Pierre avait dû aller vers Corneille parce qu'il ne voulait pas vraiment y aller lui-même. Les apôtres, au verset 1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, quand on parle des circoncis, ben c'est les Juifs. Les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis. Les incirconcis, c'étaient les païens. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc, il n'était pas vraiment content de ce que Pierre avait fait cela. Puis, il fallait que Pierre ex s'explique devant eux. Voyez-vous, au verset 15, Pierre va s'expliquer. Parce qu'il il raconte la vision qu'il avait eue, que le Seigneur lui avait montré d'aller vers Corneille. Au verset 15, il dit, lorsque je me fus mis à parler, après avoir passé, surmonté ces obstacles lui-même d'aller vers les païens, parce que le Seigneur lui avait donné une révélation de ne pas regarder comme impur ce que Dieu avait déclaré pur, parce que Corneille était un homme qui craignait Dieu, puis cherchait, puis le Seigneur voulait que Pierre aille lui parler du Seigneur. Puis au verset 15, il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Ça, c'est des païens, là. Et comme sur nous au commencement. C'est arrivé de la même façon que sur les Juifs au commencement. Là, il se réfère au chapitre 2 des Actes, quand le Saint-Esprit a baptisé les croyants dans un seul corps. Puis il dit, puis ils ont parlé en langue aussi à ce moment-là. C'est une des deux. Il y a trois endroits où on voit le parler en langue en action. La troisième fois, c'est dans 1 Corinthiens 14, quand c'est une correction. Ici, c'est le vrai parler en langue. Puis ils ont parlé en langue aussi, qui a donné la preuve qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. On voit au verset 17 et 18. Or, puisque Dieu. On va peut-être lire le verset 16 aussi. Je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, voyez-vous comment c'était ambigu, là, mais la preuve a été faite ici, là, puis c'était vraiment important qu'ils comprennent ces choses-là, puis le Seigneur. Mais ce n'était pas que les païens se tournaient vers la religion juive. C'est parce qu'ils croyaient au Seigneur Jésus. C'est toute la différence, on va le voir plus tard. On va aller dans Galates au chapitre 2. Galates au chapitre 2. On voyait que c'était un problème aussi dans Galate, parce qu'il y en a qui étaient venus disant venir de l'entourage de Jacques, puis ils voulaient que les païens soient, ils judaïsent, ils voulaient qu'ils se convertissent à la religion juive. Mais ici, on voit dans Galate 2, au verset 11 à 14, il dit, mais lorsque Céphas, c'est Paul ici qui dit, mais lorsque Céphas, c'est Pierre, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Voyez-vous, les circoncis ne voulaient pas manger avec les païennes. Puis Pierre, avant leur venue, il mangeait avec les païens. C'est lui-même qui avait été averti d'aller vers les païens. Mais là, à cause de la crainte des hommes, qu'ils autres, ils disaient venir de Jacques, qui ne voulait pas déplaire aux hommes. Là, il s'esquiva, puis il se tient à l'écart. Et dit, par crainte des circoncis, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? On voit que vraiment là, comment c'était ancré dans la pensée là, juive, puis même les païens. Il y avait une séparation. C'était une division de toute l'humanité. Tu avais les païens, puis tu avais les juifs. C'est ça que dans la parole de Dieu, quand on parle des Grecs, ben, c'est tout ce qui n'est pas juif. C'est ça qu'on pense, ouais, c'est des Grecs. Mais ben, oui, des Grecs, parce que c'était la culture du temps, la culture du monde qui était dominante, c'était le grec. Au moment du Nouveau Testament. Donc, tout ce qui n'était pas juif était considéré comme grec ou païen. C'est des païens, étaient tout englobés. Donc, il y avait une séparation ici entre juifs et païens. Au verset 7, il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, au verset 4, on avait vu la richesse de sa miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde au verset 4. Mais ici, c'est la richesse de sa grâce qui nous est mentionnée ici, là. Mise en évidence dans son œuvre. Et elle va être mise en évidence, il dit, dans les siècles à venir. Voyez-vous ici, il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Après ça, dans le verset, dans le chapitre 1, au verset 21, il avait parlé dans le siècle à venir. Voyez-vous, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, il était au singulier ici. Le pluriel indique tous les différents âges, ou on peut dire des dispensations, un mot qui n'est pas populaire aujourd'hui, mais c'est des dispensations, c'est des âges, c'est des économies que Dieu agit avec l'homme pour démontrer son amour, pour démontrer sa sainteté, pour démontrer sa puissance. Donc, quand il parle au pluriel, il indique les différents âges jusqu'à l'éternité, les différentes dispensations jusqu'à l'éternité. Puis le singulier indique l'état éternel, parce que là, ça va être fini les dispensations. On va tomber dans l'état éternel après le millénium. Puis ça va être le siècle. Ça, c'est le siècle à venir. Donc, c'est l'éternité. Mais les versets 8 et 9, ici, c'est le moyen de salut. Quand il nous dit 8 et 9, c'est des versets qui sont très populaires pour l'Évangile, parce que ça confond toute religion d'homme. Parce que toute religion d'homme est basée sur les œuvres, pour la justification. Justifié au moyen des œuvres. Ça, c'est toutes les religions d'hommes, on peut les englober dans une. Ironside, il prêchait une fois sur la rue, puis il y a un homme qui est venu à lui, puis il dit, comment que on peut se démêler dans toute cette confusion-là? Il y a tellement de religions dans le monde. Puis Ironside, il dit, j'en connais juste deux, moi. Ben comment? Juste deux religions, on dit, il y en a plein de religions dans le monde. Ben, il dit, il y a la religion de l'homme qui cherche à se sauver par ses œuvres, puis il y a la religion qui vient de Dieu, que c'est lui qui nous sauve par un sauveur. C'est ça. Il y en a juste deux là-dedans. Puis, mais c'est ça ici. Quand il nous parle ici, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc ici, c'est le salut de Dieu ici, là. Puis le moyen de salut, c'est quoi? Ben, il vient de Dieu. C'est un don, on l'a vu, ça. C'est Dieu qui a initié, mais Dieu qui est riche en miséricorde, selon le grand amour dont il nous a aimés. Donc, le salut vient de Dieu, il ne vient pas des hommes. C'est le moyen de salut, c'est un don. C'est la grâce qui est initiée, qui initie, qui invite les gens. Puis la foi, elle, c'est la réponse. Il y a des gens qui nous disent qu'on ne peut pas avoir la foi. On ne peut pas mettre notre foi nous-mêmes. Il faut qu'on soit régénéré. Mais c'est faux. C'est le don, c'est le salut par la grâce. Mais Dieu nous offre, on l'a dit tantôt, pour l'amour propose. Puis on doit répondre à cet amour-là. Puis la réponse, c'est le seul moyen que Dieu a donné de répondre à son amour, c'est de mettre notre foi en lui. De mettre notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la grâce de Dieu invite. Puis l'homme répond en mettant sa foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui disent, ben, ça serait une œuvre. Non, la foi n'est pas une œuvre. La foi est vraiment la réponse à l'invitation de Dieu. Dieu nous invite et puis il faut répondre. C'est pour ça que le salut est offert universellement. Dieu a tant aimé le monde. Tous ceux qui croient en lui. On voit tellement de versets qui nous montrent l'universalité de l'invitation de Dieu, mais elle est seulement bonne pour celui qui la reçoit par la foi. Celui qui répond à cette invitation-là par la foi, en mettant sa foi en Dieu. Il y en a qui nous disent, ben là, si le Seigneur avait payé pour tout le monde, ben tout le monde serait sauvé. Non, il faut le recevoir. pas tout le monde qui est sauvé. C'est comme un chèque. Si je vous donne un chèque d'un million, puis que vous gardez le chèque, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de papier. Ça vaut rien. À moins que vous l'endossiez, puis que vous l'apportiez à la banque. Puis là, vous allez recevoir le bénéfice de ce chèque-là. Fait que c'est de cette façon-là que Dieu a payé pour nos péchés dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est nécessaire pour le pardon de nos péchés a été payé. Mais il faut se l'approprier par la foi. Puis la foi n'est pas une œuvre. La foi, c'est une réponse logique même. Quand on voit le don de Dieu, il faut y répondre. Si on n'y répond pas, c'est pas bon. C'est comme si vous avez le chèque, puis vous le gardez, puis jamais vous endossez, jamais vous mettez votre nom dessus pour aller le porter à la banque, ben vous n'aurez jamais le bénéfice du chèque. C'est comme ça, le salut, il est bon pour tous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Puis on pourrait aller dans la parole, là, puis il y a tellement de quiconque, il y a tellement de tous. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. L'offre est vraiment universelle. C'est ça l'amour de Dieu. Si Dieu en avait choisi seulement certains pour être sauvés, quelle sorte d'amour que ce serait? Ça veut dire qu'il n'a pas aimé tout le monde, là. Il en a aimé certains, mais les autres, il ne les a pas aimés. Donc, son offre est universelle. Il s'offre à tous. Puis il peut sauver n'importe qui. Paul disait qu'il était le chef des pécheurs. C'est comme si Paul disait, il n'y en a pas un pire comme moi. S'il a pu me sauver moi, il peut vous sauver vous autres aussi. Ça fait que, il peut sauver n'importe quel pécheur, le brigand sur la croix. Il aurait pu sauver les deux. L'un qui l'a reçu, l'autre l'a rejeté. L'autre s'est moqué. C'est la même chose dans tout le monde. Les deux brigands sur la croix représentent l'humanité. Ils représentent la division dans l'humanité entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Vous savez, quand on parle du bon larron, ça n'existe pas un bon larron, c'est un mauvais larron. C'était un pécheur. La seule différence avec l'autre larron, c'est que lui a demandé au Seigneur. Pas une prière, c'était pas un gars qui était habitué à prier, là. Fait qu'il a prié comme il a pu, il a demandé. Seigneur, en reconnaissant que le Seigneur Jésus était sans péché, que s'il mourait sur la croix, il ne mourrait pas pour ses péchés à lui, mais que c'était pour les siens à lui, comme larron, que le Seigneur mourait. Puis il a dit, juste, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est tellement simple. Mais le Seigneur Jésus a dit tout de suite. Il n'a pas dit, ben là, va te faire baptiser, puis va faire des bonnes œuvres, puis va à l'église, puis donne de l'argent. Puis il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Il est mort quelques minutes ou même des heures après. Il est mort. Vous savez, il y a une fois, j'avais été visiter une madame, elle était sur son lit de mort. Puis son fils était venu nous chercher pour qu'on aille lui parler du Seigneur. Fait que là, elle m'a demandé de quelle religion es-tu? J'ai dit, pauvre madame, j'ai dit, une religion, ça ne peut pas vous aider, vous êtes sur le bord de la mort. Vous ne pourriez pas faire n'importe quelle religion, vous êtes sur le bord de la mort. J'ai dit, ce n'est pas de religion que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un sauveur. C'est ça que je suis venu vous présenter, un sauveur. Puis la madame, elle a professé le salut. Mais j'ai dit, pour recevoir le sauveur, il faut que vous rejetiez votre religion. Tout ce qui n'est pas, tout ce que les choses dans lesquelles vous mettez votre confiance, il faut vous les abandonner parce que lui, il est le seul qui peut vous sauver. Puis la madame, elle a accepté le Seigneur juste avant de mourir. Puis vous savez, quand quelqu'un est sauvé, on veut voir des évidences. Ben, son garçon, il m'a dit par après, je l'ai jamais revu, je l'ai revu juste une fois. Puis il m'a dit qu'après avoir été sauvé, il s'était réconcilié avec toute sa famille avant de mourir. Parce que quand je suis revenu la prochaine fois, elle était morte. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est lui qui nous donne. Tout sujet de gloire est exclu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, quand on va arriver au ciel, personne ne va se péter les bretelles là, pour dire, hey, moi je te cite parce que regarde tout ce que j'ai fait. Non, on va tout pointer au Seigneur Jésus. On va dire, j'étais un pécheur, mais Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Puis je l'ai accepté comme mon sauveur, puis regarde ce qu'il a fait de moi. Regarde qui m'a emmené ici. C'est que c'est vraiment le salut de Dieu, c'est tellement merveilleux. Là, on est passé de la mort à la vie. Maintenant, on est entré dans. On était des étrangers, des gens du dehors auparavant, mais maintenant, on est rendu des gens, des citoyens, des gens de la maison de Dieu. Puis on va voir ça dans le futur, on devient une habitation de Dieu en esprit. Dans l'Ancien Testament, il y avait un temple qui a été construit où Dieu, la gloire de Dieu, habitait. Dans le Nouveau Testament, il y a un nouveau temple qui est construit, qui est en train encore d'être construit par le Seigneur Jésus. Puis c'est des croyants, c'est des personnes qui font partie de l'Église qui est construit par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus avait dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, ce n'était pas dans le temps qu'il disait, il en parlait au futur, mais c'est présentement. Puis on va voir comment il l'a construit avec des Juifs et des païens rassemblés ensemble, pas dans la religion juive, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Fait que je m'arrête là pour ce soir, puis je vous donne la possibilité de reprendre vos micros. Je vais vous laisser parler un petit peu parce que je commence à avoir un petit peu de la misère à parler, là. Mais je vais attendre un petit peu. Vous allez. OK, c'est que là, vous pouvez prendre votre micro. Puis si vous avez des commentaires ou des questions.
Tu peux parler. Quand on regarde, tu peux parler, oui.
Oui.
Quand on regarde ces versets-là, c'est des versets que je trouve que c'est bon pour nous. Ça nous rappelle la grâce. On est sauvés par la grâce. Ça nous rappelle aussi qu'on était avant.
Ah oui.
On était mort par nos offenses, par nos péchés. Quelqu'un qui est mort ne peut plus faire grand-chose.
Non.
Il n'y a plus de vie, il est mort. Du point de vue spirituel, c'était ça. On était mort par nos péchés. Si on a la vie par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie. On change complètement, comme tu as mentionné, que j'ai aimé. On change de groupe complètement.
Exactement.
On est les croyants, on a la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre destinée est éternelle. Puis la compagnie qu'on va avoir, on est l'époux du Seigneur. On va être avec l'époux pour l'éternité. C'est de quoi de merveilleux pour chacun de nous qui nous attend,
Oui.
une espérance éternelle. Puis quand tu emmenais ces versets-là, je pensais à Adam et Ève quand ils ont commis le péché, ils ont désobéi
Oui.
dans Genèse. C'est quoi qu'ils ont fait? Ils sont cachés loin de la face de l'Éternel dans le
Oui.
jardin. On voit que c'est que le péché peut emmener. Il y
Oui.
avait une relation avec le Seigneur, avec l'Éternel.
Oui.
Quand le péché est rentré dans eux, la relation était coupée. En plus, il y avait peur. Il y avait peur de l'Éternel. Tu sais, on voit qu'avec le péché, c'est qu'il peut emmener. Puis dans Genèse aussi, quand le Seigneur est allé vers Adam et Ève, la première question dans Genèse,
Ouais.
il a dit à l'homme, où es-tu?
Ouais.
La première question que l'Éternel a posée à l'homme après tes péchés, où es-tu? Cette question-là est pour nous autres aussi. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, où es-tu, où c'est que tu vas?
Exactement.
Tu sais, c'est
Ouais.
merveilleux, c'est l'Éternel qui est allé vers l'homme. Puis là, à ce moment-là, dans Genèse 3, le verset 15, il a annoncé que l'Éternel a annoncé qu'on pouvait être sauvé. Je vais lire le verset, là, parce que je ne
Ouais.
veux pas prendre trop de temps non plus. Hein. Genèse 3, le verset 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras. On voit ici deux postérités. La postérité de Satan, la postérité des croyants. Puis on voit, et celle-ci t'écrasera la tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va détruire l'œuvre du diable. Il laissera le talon, ben c'est le Seigneur qui souffre à cause du péché.
Mais il écrase la tête du serpent.
Comment?
Mais il écrase la tête du serpent.
Oui, c'est ça, il écrase la tête du serpent. Quand tu regardes ça, c'est merveilleux pour chacun. C'est le Seigneur qui est venu vers nous, c'est pas nous.
Exactement.
C'est ça. J'ai écouté un message l'autre jour. Le pasteur parlait, il disait, là, ils vont dire, le Seigneur est trop bon pour envoyer le monde en enfer. Le pasteur disait, le Seigneur n'envoie plus personne. Si tu restes dans ta position, tu t'en vas directement dans l'enfer.
Ouais.
Seigneur, donne l'évangile à l'homme pour qu'il se repente. Seigneur ne veut pas que l'homme vienne en enfer. Il veut sauver le cœur de l'homme. Puis j'aimerais terminer par, on a vu au début, Adam et Ève, quand ils ont commis le péché, Dieu est allé vers l'homme, vers Adam, il a dit, où es-tu? Quand on lit à la fin de la Bible, les derniers versets de la Bible, l'Apocalypse, l'Apocalypse 22, verset 29, celui qui était ses fautes dit, oui, je viens bientôt. Viens, Seigneur Jésus. Ça fait toute une différence. C'est une transformation qui s'est faite à partir d'Adam et à la fin, dans la parole des dieux, les croyants qui sont sauvés, ils disent, viens, Seigneur. Le Seigneur, oui, je viens bientôt. C'était ça, je vais partager un petit peu, je trouvais ça merveilleux qu'est-ce qui t'a amené ce soir.
Merci.
Et comme tu disais, comme tu disais, Mendelssohn, que on n'était pas capable de rien faire, mais on va voir maintenant que là, on va être capable de faire de quoi après avoir été rendu à la vie, dans le verset 10.
Est-ce que je peux poser une question
Oui.
selon du chapitre premier?
OK.
C'est une question qui m'a été posée par rapport au chapitre premier
OK.
et à la fin du verset 18.
OK.
On a l'expression son héritage qu'il réserve aux saints. Selon la version seconde, ça dit son héritage qu'il réserve aux saints. Tandis que selon la version d'Orbi, c'est marqué son héritage dans les saints. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? On peut dire que quand on dit son héritage dans les saints, que les saints font partie aussi de l'héritage des saints? C'est un peu bizarre de dire ça. Est-ce qu'on peut dire ça vraiment?
L'héritage des saints, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus. Parce qu'on est bien co-héritier de Christ. Si on dit, c'est comme si on est dans une famille, on dit on est dans l'héritage, de l'héritage de la famille. Fait qu'on reçoit si c'est le père qui donne à ses enfants, ben on est dans l'héritage des enfants. Mais
Donc,
l'héritage qu'il réserve.
je pense qu'on peut dire que les autres saints, c'est une bénédiction pour nous, le fait qu'on a des frères et des sœurs, mais on peut pas dire qu'ils font partie de notre héritage.
Non, mais ça, on fait
Non.
toute partie ensemble de cet héritage-là.
Ouais, c'est ça.
On est tous bénéficiaires.
Merci.
On voit au chapitre 2 du verset 1, il y a une parole qui est. Quand que Paul écrit aux Éphésiens, il dit: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il n'y a pas juste écrit: Vous étiez morts par vos péchés. Il a écrit par vos offenses. Puis je regardais dans le vieux dictionnaire, pourquoi que c'est offense? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça exige réparation. Les réparations, ça, c'est pour les Juifs. Ils savaient qu'il fallait qu'ils fassent un sacrifice à toutes les ans, souverain sacrificateur. Il fallait qu'ils tuent une bête. Puis pour réparer, c'est juste réparer. Ça restait toujours, comme on dit, très fragile. Mais quand le Seigneur est arrivé, c'était pour nos péchés. Les deux sont mis ensemble. C'est très intéressant. Il y a du matériel. On aurait pour la nuit.
Ah oui.
Je trouvais, Gérald, que les versets 4 à 6 rejoignaient beaucoup Éphésiens 1 qu'on a vu la semaine dernière, quand il dit, Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il vous a aimé, là je suis en version Darby, alors même que nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Fait que l'espérance qu'il nous donne, c'est qu'on a déjà une vie maintenant dans le corps mortel qu'on a.
Ouais.
Cette vie-là, il nous a donné aussi comme héritage, on va s'asseoir dans les lieux célestes avec lui. Donc, on va régner avec lui. On va partager son règne. Puis ça, je veux dire, me semble qu'on ne voit pas ça beaucoup sur la terre, là.
Ouais.
C'est l'espérance qui est là pour nous. Pour ça,
Ouais.
son Église, en tant qu'héritier, on hérite aussi la vision de l'Église qui va régner avec Christ dans le ciel. En tout cas, moi, ça m'a encouragé beaucoup de voir que même si notre corps extérieur se détruit, notre être intérieur il se renouvelle de jour en jour, parce que lui, il n'arrête pas de vivre. Il
Non.
continue jusqu'à dans l'éternité avec le ciel, avec le règne qu'on va partager avec le Seigneur dans le ciel.
Ouais. C'est ça, dans la version anglaise, il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints? Donc, c'est l'héritage qu'on va partager ensemble. C'est son héritage, mais qu'on va partager ensemble.
J'ai remarqué que la Darby, des fois, est plus précise en anglais qu'en français.
OK.
Ben, en tout cas pour moi, là, quand je la lis, ça.
Elle a été traduite. Darby a fait la
Ben oui.
Bible en français avant de faire celle-là en anglais.
C'est ça.
C'est un anglophone, lui.
Ah oui, c'est ça. Que des fois, est plus précise ou est plus compréhensible en anglais.
Mais ça, qu'est-ce que je lisais dans l'anglais? C'est dans la version King James.
King James.
Ouais. OK, je pense qu'on a atteint notre but. On va bien prier pour que ceux qui doivent partir peuvent partir. S'il y en a qui veulent continuer de parler, on pourra parler après, mais on va prier pour que. Clôt la réunion. Seigneur notre Dieu, on te remercie des grandes choses que tu as faites pour nous. Seigneur, on s'émerveille en lisant dans ta parole. C'est sans ça, Seigneur, si ce n'était pas dans ta parole, ce serait difficile à croire que tu as fait des choses si grandes pour nous. Mais c'est dans ta parole, Seigneur. C'est toi qui as voulu nous le communiquer. Puis pour qu'on puisse en jouir, pour qu'on puisse voir, goûter et voyez que le Seigneur est bon. Puis oui, notre Dieu, on voit vraiment ta grandeur, ta majesté, ta puissance, ton amour divin, la richesse de ta miséricorde, la richesse de ta grâce envers nous. Merci pour tout cela, Seigneur. Puis on veut en jouir déjà ici sur la terre, jusque dans l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.